On va continuer dans le livre de Zacharie, la 30e leçon. Pour tous ceux qui sont là, vous avez persévéré jusqu'à... Vous êtes rendu à l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Vous en reste un seul la semaine prochaine. Vous avez persévéré au travers de 3 enseignants différents. Fait que ça, on appelle ça de la vraie persévérance chrétienne. Ça, c'est cool, ça. Alors, juste avant de commencer, vous pouvez tourner avec moi dans Zacharie. Puis, je vais juste prier pour commencer, puis après, on va s'y mettre. Seigneur Jésus, on veut se laisser enseigner par toi. On veut que ce soit toi et ton esprit qui nous permettent de comprendre les Écritures. Parce qu'on croit que c'est toi qui nous as donné la Bible. Seigneur, on croit que c'est toi qui nous as donné ces paroles. Et Seigneur, sans que toi tu nous éclaires, on peut les comprendre intellectuellement, mais on ne les acceptera pas et on ne pourra pas les appliquer à notre vie, Seigneur. Et ce qu'on veut... Et c'est exactement ce qu'on veut parce qu'on a besoin que notre vie soit transformée par toi. Alors, éclaire-nous ce matin, Seigneur, et viens m'aider, soit avec ma bouche, Seigneur, soit avec mon esprit, pour que je puisse enseigner le livre de Zacharie avec le plus d'exactitude possible, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun. Et c'est en ton nom que je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Je me dis, ce serait peut-être une bonne idée un bon temps pour essayer de faire une révision, une petite révision de qu'est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Puis j'aimerais ça. On m'avait dit la dernière fois que j'avais enseigné de faire plus participer les gens, alors je vais essayer de mettre en pratique. Alors, il y en a qui sont quand même loin, mais j'espère qu'on va pouvoir quand même tous s'entendre. J'aimerais que vous me disiez, quand on lit l'Ancien Testament, là, pourquoi est-ce qu'on lit l'Ancien Testament? À quoi est-ce que l'Ancien Testament est utile pour nous aujourd'hui, les chrétiens? Fait que là, c'est une question que je vous pose directement. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer une réponse? Quand on lit l'Ancien Testament, à quoi est-ce qu'il nous sert à nous, les chrétiens? Pourquoi ne pas tout simplement rester dans le Nouveau Testament? Oui? Pour nous servir d'exemple. OK. Pour nous servir d'exemple. Très bonne réponse. Paul, il dit ça dans le Nouveau Testament. T'sais. Fait que les choses qui sont arrivées sont là pour nous servir d'exemple. On veut s'inspirer. On se limite à lire l'Ancien Testament en disant, genre, David a fait ça, donc je vais faire comme David. Tel mauvais personnage a fait ça, alors je vais essayer de ne pas refaire qu'est-ce qu'il a fait. Quoi d'autre dans l'Ancien Testament est-ce que c'est utile pour nous, les chrétiens, aujourd'hui? Oui?
Il y a beaucoup de promesses dans l'Ancien Testament. Alors, il a Hébreu qui dit que ces hommes-là, auxquels ils ont vécu, et ils sont en attente pour que ensemble nous, l'Église, soit arrive à la perfection. Alors, quand il a dit que c'est pour apprendre, alors Dieu a donné des promesses à l'homme.
Oui.
Et si elles tardent, elles vont sûrement arriver.
Mm-hmm.
On a appris, on apprend de ces hommes-là. On apprend parce que Dieu n'a pas changé. Dieu a donné les mêmes promesses qui se sont accomplies dans nos vies.
Oui. Alors, pour résumer la réponse, pour ceux qui vont écouter l'enregistrement, c'est dans le fond, dans l'Ancien Testament, il y a des promesses. Plusieurs d'entre elles sont restées inachevées. Fait que j'essaie de résumer en gros ce que tu dis. On reste sur un goût d'inachevé dans l'Ancien Testament. On reste sur un goût de « c'est pas encore fini ». Mais pour nous, les chrétiens qui vivons après la croix, qui vivons après Jésus, on peut voir que déjà Dieu a accompli ses promesses par Jésus. Donc, on peut être consolé, on peut être réconforté par les promesses que nous donne Dieu. Je sommarise, c'est sûr que je n'ai pas tout dit ce que tu as dit, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose en lisant l'Ancien Testament? Est-ce que vous pensez que L'Ancien Testament, c'est un livre qui parle principalement de nous. Selon vous. Est-ce que ça parle principalement du peuple juif? Est-ce que ça parle principalement de l'histoire des Juifs ou de qu'est-ce que Dieu fait avec les Juifs? Puis c'est drôle, quand Jésus prend la Bible et qu'il la montre aux pharisiens, qui eux autres étaient probablement ceux qui voulaient appliquer la loi dans son sens le plus strict possible, Jésus dit, si vous regardez les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Alors la Bible, l'Ancien Testament, est là pour nous parler de Jésus premièrement. Pas simplement de Jésus est mort pour nos péchés, c'est pas aussi clair que ça, mais là pour nous décrire comment Dieu interagit avec l'être humain, avec son peuple, au moyen de avec le peuple juif, et comment est-ce que Dieu prépare la venue de Jésus, comment est-ce que Jésus accomplit tout ce que Dieu avait promis, comment est-ce que Jésus va venir. On a toutes des ombres à l'intérieur de ça. Et dans l'Ancien Testament, on arrive dans le livre de Zacharie. Et si on regarde le contexte de Zacharie, on arrive à un moment où est-ce que, justement, le peuple arrive dans une tension. Parce que durant toute leur vie, ils ont simplement connu qu'ils étaient déportés. Langage informatique. Ils ont été déportés. Ils entendent depuis longtemps que Dieu leur a promis un pays. Leur a promis qu'il y aurait toujours un roi davidique sur le trône. Ils ont promis qu'ils régneraient sur les nations qu'ils étaient autour. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? C'est qu'ils voient que le temple a été détruit. Ils ne sont pas dans leur pays. Et très certainement, ils ne règnent pas sur les nations qui sont autour. Et puis là, après 70 ans, ils reviennent dans leur pays. Et puis là, c'est là que la tension est là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Où est-ce qu'on va se diriger? Zacharie, l'introduction, le thème de Zacharie, le thème du livre de Zacharie est que Dieu préservera un reste d'Israël de toutes les puissances mondiales. Et pour ça, c'est un thème qui est très important pour les Juifs, parce que pour eux autres, ils se voient déjà comme j'ai dit, ils se voient déjà comme au bout du rouleau parce qu'ils ont été déportés dans toutes les nations. Et ils savent, parce que la loi disait dans l'Ancien Testament, que s'ils n'étaient pas fidèles à l'alliance que Dieu avait faite, que finalement ils seraient déportés loin de leur pays. Et maintenant, après 70 ans, ils se demandent, mais maintenant, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu va leur révéler au travers du prophète Zacharie que, non, Dieu va préserver un reste de toutes les puissances. Ils ne seront pas assimilés parmi toutes les puissances mondiales. Mais Dieu va leur préserver un reste qui est juste. Quand est-ce que Zacharie a été rédigé? Fait que je vous ai déjà donné une petite idée. C'est après l'exil, après les 70 ans, le peuple juif est en train de revenir. Dieu a suscité un roi qui s'appelle Darius, qui lui a décidé de permettre aux Juifs de retourner chez eux et de pouvoir rebâtir le temple. Et là, les gens sont un peu découragés parce que c'est pas aussi facile que ça en a de l'air. Et Dieu a suscité deux prophètes. Le prophète Agé, que vous avez vu la semaine passée. Je ne sais pas qui était là au dernier cours. Y en a-tu qui était ici, dernier cours, la semaine passée? Alors, le prophète Agé, qui aussi se situait quand on commençait à rebâtir le temple. Et aussi Zacharie, donc environ en même temps, en 520 avant Jésus-Christ. Alors, l'auteur, l'auteur s'identifie dès le début, c'est Zacharie le prophète. Le livre est vraiment intéressant parce qu'on voit que ça va être une structure ou un style de livre qu'on n'est pas habitué. On va avoir beaucoup de visions. On va avoir des appels à la repentance comme on est habitué. Et on va voir aussi beaucoup, le prophète va beaucoup nous amener vers le futur, vers comment ça va se passer quand finalement Dieu va régner sur les nations. Dieu va régner sur son peuple et toute la terre va être remplie de sa gloire. Qu'est-ce qui va mener à ça? Et surtout aussi le règne du Messie. Le livre n'a pas été écrit tout d'un seul coup. Alors, Comme on l'a mentionné, le livre de Zacharie se situe pendant la période du retour de la captivité. Alors, les Juifs reviennent, vont bâtir le temple. Et une partie du message de Zacharie, des chapitres 1 à 8, se situe avant la reconstruction du temple, tandis que la seconde partie, des chapitres 9 à 14, se situe après la construction du temple. Qui se souvient, c'est quoi le rôle principal d'un prophète? Ou l'un des rôles principaux? Qu'est-ce qu'un prophète fait? C'est quoi son rôle? Il parle au nom de l'Éternel. Exact. Alors, il annonce un message que Dieu lui a donné. Vers quoi se tourne ce message habituellement? Repentez-vous. C'est bien résumé, c'est en deux mots. Repentez-vous. Alors, le prophète appelle à la repentance. Pourquoi est-ce qu'il appelle à la repentance? Qui est-ce qu'il appelle à la repentance, principalement?
Parce que le peuple marche continuellement dans la désobéissance.
Oui. Et ça, ce que ça nous donne, ce que ça nous dit, c'est que vu que le peuple marchait constamment dans la désobéissance, c'est parce qu'ils avaient eu une alliance avec Dieu. Dieu avait fait alliance avec le peuple d'Israël. Il les avait sortis d'Égypte. Il avait dit, « Maintenant que je vous ai sortis d'Égypte, vous êtes à moi. Et parce que vous êtes à moi, je veux que vous reflétez qui je suis. » Et ça, des fois, c'est une partie qu'on oublie. On pense des fois que l'Ancien Testament, c'est le livre où Dieu donnait toutes ses lois, puis que les gens devaient obéir, non pas par la foi, mais ils devaient obéir à des œuvres, puis ils devaient suivre les lois de l'Ancien Testament. Tandis que même dans l'Ancien Testament, même si vous regardez dans le fameux chapitre d'Exode 20, avec les 10 commandements, il ne commence pas en disant tout de suite sa loi. Il va commencer par une autre phrase. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Y a-t-il quelqu'un qui sait par quoi il commence quand il va donner ses 10 paroles, ses 10 commandements? N'as-tu qui savent? Exode 20, verset 2. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Alors, Dieu ne commence pas en disant « Voici mes lois. » Il commence par dire « Voici, je vous ai racheté. Vous êtes à moi. Je vous ai sorti de la maison d'esclavage. » Et ensuite, il donne ses lois. Et ça, c'est de la même manière pour nous autres. Parfois, on commence la vie chrétienne et on se dit, on va commencer par « Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? » Oui?
J'ai une question.
Oui?
Okay. Il manque une grande réflexion.
Fait que je ne sais pas si je vais pouvoir.
La question, c'est si le peuple juif avait été capable d'obéir à la loi, est-ce que l'œuvre de Christ serait comprise aujourd'hui?
Si elle serait comprise?
Oui, parce que moi, je crois que l'Ancien Testament, mm-hmm. c'est pour démontrer à l'homme qu'ils sont impossibles de suivre Dieu par leur propre moyen.
Mm-hmm.
Et ce que Dieu cherche est un cœur repentant.
Oui.
Alors, si je me justifie par la loi, je ne peux pas avoir un cœur repentant.
Oui, ça c'est vrai. Oui. Mm-hmm.
Donc, je ne peux pas naître de nouveau par l'obéissance de la loi.
Oui.
Alors, ça a pris 4000 ans, pratiquement, pour enseigner à l'homme qu'ils ne peuvent pas suivre Dieu de leur propre moyen.
Oui.
Mais le moyen nous a été donné que par Jésus-Christ.
Oui.
Donc, c'était impossible dans l'Ancien Testament qu'on ait, à part de certains hommes qui ont marché par la foi, okay, de suivre Dieu.
Et c'était exactement la leçon que Dieu veut donner, même au travers des 10 commandements. Il est impossible à l'homme de tout simplement dire, « Ben moi, je prends les commandements, je vais les suivre et je vais me retrouver juste devant Dieu. » Dieu a toujours commencé par la grâce. Dieu a toujours commencé par racheter son peuple et par lui dire, « Vous étiez esclaves, vous ne pouvez rien faire. » Le fait qu'on n'est pas capable d'obéir à Dieu, c'est parce qu'on est esclave. On est esclave du péché. On est esclave de notre ennemi, de Satan. Donc, quand Dieu arrive à son peuple, il ne dit pas « Voici les lois, c'est avec ça que tu vas te justifier. » Il dit « Voici, je t'ai justifié, je t'ai racheté, tu es à moi. Donc, maintenant, je veux que tu reflètes ce que je suis. » Et c'est un petit peu comme notre frère nous a dit, la leçon, ils vont l'avoir appris, ça l'a pris plus de 1500 ans. Même après la loi, apprendre la leçon. Et même au travers, la majorité du temps, la première leçon qu'ils n'avaient pas apprise, et c'est ça que les prophètes vont répéter souvent, c'est que le peuple va retourner constamment à l'idolâtrie. Constamment, ce qui est déstabilisant avec le vrai Dieu, c'est qu'il ne nous laisse pas décider comment est-ce qu'on va agir vis-à-vis lui. Mais c'est que c'est lui qui décide comment est-ce qu'on va agir et comment on va s'approcher de lui. Et c'est ça que les prophètes, tentent d'expliquer. Parce que si vous lisez juste les prophètes, vous vous dites, OK, ben, ils sont pas obéissants, tout ça, mais ils sont pas obéissants et Dieu les reprend parce qu'ils ont été rachetés. Parce qu'ils sont le peuple de Dieu, parce que Dieu en a fait son peuple, Dieu va les avertir constamment. Et pour nous, c'est la même chose. Quand Dieu nous avertit, souvent, c'est pas parce que c'est pas simplement qu'on n'agit pas assez bien. Le problème, souvent, c'est qu'on a oublié d'où on a été racheté. Et dans Pierre, c'est ça qu'il dit. Il dit, il y en a certains qui sont aveugles et ont oublié que leurs anciens péchés ont été pardonnés. Fait que pour nous, c'est la même chose. Quand les prophètes viennent pour annoncer le message et disent « Repends-toi », comme notre sœur nous l'a dit, c'est pas juste « Refais les bonnes actions », c'est « Souviens-toi d'où tu es venu. Rappelle-toi que je t'ai racheté d'Égypte. » Et vous allez voir, c'est un thème qui revient beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est « Souviens-toi que je t'ai racheté d'Égypte. » Et maintenant que tu te souviens que tu m'appartiens, arrête d'essayer par tes propres efforts. Viens à moi. Moi, je vais t'aider. Moi, je vais te supporter. Moi, je vais t'enseigner ce que tu dois faire. Et le livre de Zacharie commence par ce thème-là. On va lire le début de Zacharie, où ce que Zacharie commence par faire un appel justement à la repentance. Au verset, on va commencer 1-1, Zacharie 1-1. Il situe dans le temps exactement quand est-ce qu'il va dire. Le huitième mois, la deuxième année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Bérékia et petit-fils d'Ido. L'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. Alors, annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ne soyez pas comme vos ancêtres, auxquels les premiers prophètes proclamaient, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. Le premier message de Zacharie, c'est un appel à la repentance. Et cet appel-là est toujours bon pour nous. Le premier message que Jésus a fait en commençant son ministère, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et le premier pas d'une repentance sincère, ce n'est pas de regarder à soi-même puis de dire « Je ne fais pas les bonnes actions, je ne suis pas correct. » C'est de regarder à Dieu, c'est « Est-ce que j'ai oublié que c'est Dieu qui m'a racheté? Que c'est Dieu qui a fait de moi son enfant? » Et c'est la même chose, Zacharie va dire, les anciens prophètes ont sans cesse annoncé à vos ancêtres, arrêtez vos mauvaises actions. Et il dit, le problème, c'est qu'ils n'ont pas pensé à moi. Ils ne sont pas revenus à moi. Et le message principal de Zacharie, c'est revenez à moi. Et moi, et Dieu, il donne une promesse, il dit, celui qui vient à moi, je vais revenir à lui. Je ne vais pas revenir, puis je vais faire comme... Non, toi reviens pas toi, t'as été trop méchant. Non, Dieu il promet, moi je vais revenir à toi. Fait que c'est un message d'espérance pour nous, parce qu'il n'est jamais trop tard. On peut toujours revenir à Dieu, et Dieu il dit, Jésus même reprend un peu cette phrase-là, il dit, et moi je ne vais jamais jeter dehors celui qui vient à moi. Le deuxième thème du message de Zacharie, on voit beaucoup le règne du Messie triomphant. Dépendant des prophètes, on voit différentes parties de la vie de Jésus. Et même les Juifs avaient de la difficulté à comprendre. Comment est-ce qu'on réconcilie toutes ces prophéties-là que Dieu nous donne par rapport à cet homme-là, à ce Messie-là qui est supposé régner? Dans Ésaïe, on voit un homme qui souffre. Dans certaines parties de Zacharie, on va aussi voir qu'il va parler de quelqu'un qui a été persécuté ou percé. Et puis pourtant, la Bible annonce, l'Ancien Testament annonce que le Messie devait régner. Et à un moment donné, les Juifs étaient tellement pas sûrs de comment réconcilier ça qu'ils ont parlé de deux Messies à un certain moment donné. Un Messie souffrant et un Messie triomphant. Ils n'arrivaient pas à concevoir un triomphe par la souffrance ou un triomphe par une défaite. Et souvent, nous autres non plus, il faut dire, on n'associe pas vraiment notre victoire avec d'être brisé, d'avoir le cœur contrit. On va aller voir Zacharie chapitre 6. On va lire des versets 9 à 15. As-tu quelqu'un qui voudrait lire Zacharie 6, versets 9 à 15? Quelqu'un qui a sa Bible? Tu serais capable de lire fort. Sinon, moi, c'est sûr que moi, je peux me désigner d'office, mais si quelqu'un veut lire. Okay. Oui, Stéphane?
6.
Verset 9 à 15. Ouais. Mais le truc, c'est de les lire vite, puis comme si tu savais comment ça se prononce, puis ça passe.
Et tu iras toi-même. Aujourd'hui, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras l'argent et l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Josadac. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera et se construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera maître sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Les couronnes seront un souvenir pour Élam, Tobija et Jedaïja. Et pour En, le fils de Sophonie dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu.
Merci. Dans l'Ancien Testament, il y a différentes manières de voir le Messie. On peut voir le Messie dans des prophéties directes, où ce que on annonce que le Messie va naître dans la ville de Bethléem. Ça, c'est une prophétie directe. On peut voir l'œuvre du Messie au travers de situations particulières dans l'histoire. Alors, admettons, on a l'Exode. Dieu sort son peuple d'Égypte pour en faire son peuple, justement. Et il les a délivrés du Pharaon, de l'ennemi. Il les a rachetés, etc. Alors, on arrive à voir l'œuvre du Messie. Dieu a fait en nous un nouvel exode où ce qui nous a rachetés du monde des ténèbres et nous a délivrés du prince de nos ennemis, de Satan. Et il y a aussi, on peut voir dans les types, alors certaines personnes étaient des types de Christ, c'est-à-dire que David était un roi qui régnait sur son peuple, sur tout Israël, qui a libéré le pays de ses ennemis. Alors on peut voir dans David un type de Christ où ce que Jésus et d'un roi sur son peuple qui nous délivre de nos ennemis. Et il y a aussi ce qu'on appelle, on peut voir Christ dans les différents offices. Dans les offices, c'est que Dieu a mis des rôles spécifiques dans le peuple d'Israël. Alors, on avait l'office d'être un prophète. Alors, certaines personnes étaient appelées, comme on a dit, à proclamer la parole de Dieu. On avait les prêtres. Saviez-vous c'était quoi le rôle des prêtres que Dieu avait fait?
Intercéder.
Alors, il y avait un aspect d'intercession. Ils devaient être entre Dieu et le peuple et intercéder en la faveur du peuple devant Dieu. Et il y avait aussi l'office de roi. Un roi, évidemment, qu'est-ce que ça fait un roi? Je sais qu'on aimerait tous être un roi. Ça règne. Un roi règne. Alors, le rôle du roi était de régner sur le peuple de Dieu. Et Dieu avait mis ces offices-là. Le rôle du roi et du prêtre était séparé. Un roi avait essayé de jouer le rôle d'un prêtre. Je ne sais pas si... Non, le nom n'est pas mentionné ici. Mais un roi avait essayé, il s'était dit, moi là, j'étais un roi extraordinaire, j'obéis à Dieu, il n'y a pas de problème. Fait qu'il s'est dit, tiens, je vais aller donner des parfums dans le temple de l'Éternel. Et il a été faire ça. Les prêtres et sacrificateurs, au risque de leur vie, parce qu'ils confrontaient le roi, ont décidé de dire au roi, c'est pas bien ce que tu fais. Et je ne sais pas qu'est-ce que le roi aurait été fait si Dieu n'avait pas intervenu, mais Dieu a frappé le roi de la lèpre. La lèpre est apparue, si je me souviens bien, dans son front, soudainement. Puis là, les prêtres étaient comme, qu'est-ce que c'est ça la lèpre pour eux? La loi disait que la lèpre, c'était ce qui était impur. Alors là, ils ont sorti le roi du temple parce qu'il était en train de rendre le temple impur. Et ça, c'était, Dieu avait donné au roi son rôle, et Dieu avait donné au prêtre son propre rôle. Et là, on voit que Dieu annonce qu'un jour, il va y avoir un homme particulier. Et il le symbolise en demandant à Zacharie, tu vas aller chercher de l'or qu'on va te donner, tu vas faire fondre ça, tu vas te faire des couronnes, et tu vas mettre la couronne sur la tête du grand prêtre, Josué qui s'appelait. Et ça, c'est spécial, parce qu'un grand prêtre ne recevait pas une couronne. Tu ne pouvais pas être un roi et un grand prêtre en même temps. Et là, il était en train de montrer qu'un jour, ces deux offices-là, celui d'intercéder devant Dieu, celui de régner sur son peuple, allaient être réunis en une seule personne. Oui? Yes. Exactement. Oui, ça c'est très vrai. Alors, Josué, je sais plus exactement pourquoi, c'est la forme grecque, c'est la forme hébreuse peut-être, et Jésus c'est la forme grecque, je crois, je suis pas sûr. Hein? Je suis pas sûr exactement, mais Josué et Jésus, c'est le même nom, c'est Yeshua. Dans deux formes différentes. Alors là, on a une image très forte d'un homme qui s'appelle Josué ou Jésus, qui est un grand prêtre, et on lui remet une couronne, où ce qui va réunir deux offices. Et c'est une image très forte pour montrer qu'un jour, et merci beaucoup, qu'un jour, justement, Jésus va venir, et Jésus va être autant le roi qui est attendu, mais aussi le prêtre. Et Hébreux reprend beaucoup ce thème-là de dire, genre, Jésus était un prêtre et il intercède présentement devant Dieu. Lui, il n'est pas rentré dans un temple fait de main d'homme. Il n'a pas été présenté un sacrifice pour lui-même, mais il est rentré directement au ciel. Et c'est avec son propre sang qu'il s'est approché pour intercéder. Alors, en Jésus, et c'est la raison pour laquelle on n'a plus de prêtre. Et c'est drôle parce que hier, pour la première fois de ma vie, j'ai vu une messe catholique. Par pure curiosité, simplement pour savoir, je n'avais jamais été, et je voyais toute la dévotion qu'on donnait à ce prêtre-là, puisqu'on croit que c'est le médiateur entre Dieu et entre le peuple. Et ça m'a vraiment surpris, mais en même temps, je trouvais ça normal, parce que je me disais, s'il y avait vraiment un homme qui représentait Dieu, qui était véritablement le médiateur entre Dieu et le peuple, oui, je suis d'accord, il y aurait droit à une certaine dévotion, à un certain respect. Et Jésus remplit non seulement le rôle du prêtre, du roi, mais même du prophète. C'est le prophète que Moïse avait appelé. Alors, on voit que Zacharie commence à nous présenter Jésus comme étant un roi triomphant, ou ce qui va délivrer son peuple, ou ce qui va germer. Et tout comme à cette époque-là, il devait rebâtir le temple de l'Éternel, il révèle que c'est cet homme-là qui va véritablement rebâtir le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, savez-vous qu'est-ce que c'était pour les Juifs? C'était quoi pour eux cet endroit-là, ce temple-là? Comment est-ce qu'ils le considéraient selon vous? À quoi servait un temple? Une maison de Dieu, OK, c'était là où Dieu habitait. Un lieu de rencontre entre. Mm-hmm. Oui. Oui. Fait que c'était l'endroit de la présence de Dieu. Et Dieu, on devait s'approcher là en se purifiant en se trempant dans l'eau, en faisant des sacrifices, confessions, etc. Alors, quand tu arrivais au lieu très saint, tu te retrouvais devant Dieu dans sa présence. Fait que tu devais être très pur pour te retrouver devant lui. As-tu autre chose? Ça représentait le temple? C'est deux très bonnes réponses déjà. L'endroit où Dieu habite, l'endroit de la présence de Dieu. Pour les Juifs, le temple était l'endroit où l'homme et Dieu se rejoignaient. C'était l'endroit où, comme on dit, l'homme pouvait rencontrer Dieu. C'était d'un certain sens l'accès à Dieu direct. Et ce n'était pas parce que Dieu était juste à cet endroit-là, mais Dieu avait dit, c'est là que je vais faire résider mon nom et ma présence. Et là, il voulait rebâtir le temple, c'est évident, parce que là, il voulait avoir un accès à Dieu. Il savait que avoir accès à Dieu, c'est avoir accès à la bénédiction. Et puis là, il annonce que c'est cet homme-là qui s'appelle... Là, on avait avec Josué, on avait une signification, mais là, il l'appelle Germe. Une pousse. Puis il dit, il va être planté, il va germer à Jérusalem et il va rebâtir le temple. Et quand Jésus arrive, imaginez que quand Jésus arrive, puis là, c'est l'endroit où est-ce que... C'est un lieu extrêmement important. C'est l'endroit où est-ce qu'on rencontre Dieu. Et Jésus arrive, il dit, détruisez ce temple et je le rebâtis en 3 jours. Pouvez-vous imaginer comment est-ce que les Juifs ont dû être offensés? Parce que là-dedans, quand il avait été détruit, là, c'était par les ennemis de Dieu. Et là, les Juifs étaient comme en désolation. On n'a plus de temple. Dieu nous a abandonnés. Il est parti. Fait que là, Jésus arrive, il dit, je détruis ce temple et je le rebâtis en 3 jours. Jésus n'était pas en train de parler des pierres physiques, évidemment, j'imagine que je ne vous apprends rien. Mais il est en train de dire que l'endroit où ce que l'homme allait rencontrer Dieu, l'endroit où la présence de Dieu serait, c'était par Jésus. C'était là qu'on allait rencontrer Dieu. Et un prédicateur a dit, « Si vous êtes un chercheur, cherchez là où Dieu a établi son lieu de rencontre, si vous le cherchez. » Fait que, si Dieu a établi son lieu de rencontre par Jésus, commencez à chercher Dieu par là. Et puis encore plus loin, Paul il dit en plus que quand il dit que Germe allait rebâtir le temple, il nous dit que nous, Paul il nous dit que nous on est des pierres et qu'après quand on s'unit à Jésus par la foi, on devient le temple de Dieu. Donc on porte en nous la présence de Dieu. Partout où ce qu'on va, les gens peuvent rencontrer Dieu. Et ça, c'est un rôle extrêmement important que Dieu vous a donné. Parce que partout où vous allez, les gens peuvent rencontrer Dieu. Par l'Évangile, évidemment. Quand vous pointez vers Jésus. Et Christ, n'est-ce pas? La prophétie de Zacharie annonçait la venue d'un souverain sacrificateur plus grand, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant en Israël et dont le règne serait éternel. Est-ce que c'est la seule allusion à Jésus? On peut en voir d'autres. Si vous allez au chapitre 9, verset 9, Dieu parle de comment est-ce qu'il va se venger des nations. Au verset 9, il reparle de Jérusalem, il reparle de son peuple et il dit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et ça, on n'a pas besoin d'aller très loin pour comprendre d'où est-ce que ça parle de Jésus. Lorsque Jésus est revenu à Jérusalem la dernière fois pour y être crucifié, il a demandé à ses disciples, « Allez me chercher un ânon. » Ce qu'ils ont fait. C'est drôle parce qu'un roi, quand il revient victorieux, il revient sur un cheval. Ça a l'air pas mal plus hot quand un roi revient sur un cheval. Mais là, il dit non, votre roi, il est humble. Il va revenir sur le petit d'un ânon. Alors, Jésus a essayé de rendre ça très clair pour les gens de son époque, qui il était. Qu'il était le roi qui s'en venait. Et beaucoup de gens ont cru que c'était le roi à ce moment-là où ils ont amené des feuilles, je ne sais plus de quoi, là, puis là, de palmier ou je ne sais pas. Palmier, merci. Puis ils ont dit que c'était le roi. Et c'est drôle, dans le même livre de Zacharie, on peut voir, il n'est pas à cet endroit-là. Oui, on peut voir, si je me souviens, au chapitre 12, verset 10. Chapitre 12, verset 10. Ce même roi qui est rentré humblement et que tout le monde acclamait, Zacharie annonce que lorsqu'il va déverser sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Dieu parle et il dit, ils vont revenir à moi, moi qu'ils ont transpercé. Et dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, les évangélistes mettent ça très clair, que celui qui a été transpercé par la crucifixion, par des clous, c'était Jésus. Alors, ce même roi qui arrivait humblement, Zacharie annonce en même temps que c'est qu'il va venir et être transpercé. Qu'il va être crucifié. Je pense pas qu'à ce temps-là, il savait que c'était la crucifixion. Et ce roi-là, qui arrive humblement, qui est percé. C'est ce même Messie-là qui va arriver triomphant dans Zacharie 13, verset 7. Épée, réveille-toi contre mon berger. L'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, frappe le berger. Ah non, ça c'est un passage où encore Jésus est persécuté. Hein? Oui, au jardin de Gethsémané. Où est-ce que là Jésus dit, ben, le berger va être frappé et tout le monde va s'en aller. On voit que les disciples s'en vont tous. Mais finalement, par le Messie, l'Éternel règnera sur toute la terre. Désolé, c'était le chapitre 14, verset 9, où ce qu'il dit, « L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Où ce qu'il annonce que ce même prêtre-là, Josué, qui annonce un roi, et puis là, Zacharie dit, mais ce roi-là, ça va être l'Éternel qui vient régner sur toute la terre. Le Messie va être triomphant. Il va venir, il va régner. Alors, si vous regardez, est-ce que la Bible est principalement pour parler de nous? Elle parle de nous. Elle parle de notre tendance à être infidèle, à ne pas être capable d'accomplir ce que Dieu nous demande. Elle parle de comment est-ce que le cœur de l'être humain est sombre, comment est-ce qu'il prend qu'est-ce que Dieu lui donne. Et si c'est un prophète, il le tue. Si c'est son fils, il le crucifie. C'est comme ça que le cœur humain est. Mais la Bible nous parle principalement de Jésus. Et on voit dans l'Ancien Testament, et vous pouvez, et c'est un bon exercice à faire de prendre l'Ancien Testament et de regarder. Seigneur Dieu, révèle-moi Jésus au travers de ces pages-là. Révèle-moi comment est-ce que Jésus m'a aimé. Révèle-moi comment est-ce que mon cœur était désespérément perdu et que Jésus l'a racheté. Ne cherchez pas la Bible en disant, Dieu, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Dieu, montre-moi comment est-ce que je peux réussir à être une bonne personne aujourd'hui. Mais cherchez Jésus. dans les pages de l'Ancien Testament. Et la semaine prochaine, vous allez voir le dernier livre de l'Ancien Testament et vous allez voir comment est-ce que ce livre-là nous parle encore de Jésus. Mais avant, certaines petites applications. Alors, si vous tournez à la dernière feuille, à la dernière page de votre... Alors, j'ai déjà parlé un petit peu de certaines applications. Jésus, le vrai bâtisseur du temple. Alors, comme je vous disais, que Jésus a véritablement bâti le temple et que maintenant, le temple, c'est nous qui se sont unis à lui par la foi et que maintenant, la présence de Dieu, on l'amène partout où on va et que les gens peuvent rencontrer Dieu par nous. On a vu que Jésus est le roi humble qui viendra et qui sera percé. De reconnaître que Dieu n'est pas un Dieu qui se plaît seulement à la gloire, mais c'est un Dieu aussi humble. C'est une qualité qu'on ne pense pas souvent de Dieu, mais Dieu, c'est un Dieu très humble. Oui, on a un Dieu tout-puissant. On a un Dieu qui, quand il arrive, les montagnes fument, les montagnes fondent, les trompettes sonnent, on se couche à terre, mais on a un Dieu vraiment humble qui, lui, est toujours prêt à venir le premier. Que lui est toujours prêt à venir avec grâce et pardon. Et vous allez voir, même dans Zacharie, à un moment donné, il fait une parabole. Il dit, je suis venu comme un berger et j'ai décidé de ne pas prendre les brebis les plus fortes, mais j'ai pris les brebis les plus chétives, les plus faibles. Puis là, j'ai pris mes deux bâtons. Bâton grâce et bâton union. Fait qu'il montre qu'il est toujours prêt à venir vers les brebis, non pas les plus fortes. Quand vous êtes venu au christianisme, parfois on se dit, en tout cas, moi ça m'est arrivé, je le dis, je le confesse, je suis arrivé au christianisme, c'est comme, je vais pouvoir rajouter au christianisme de mes dons, de mes talents, etc. Puis finalement, je me suis rendu compte que, ouf, finalement, je rajoute pas grand-chose au christianisme. En fait, j'en enlève beaucoup. Mais une chance que Dieu est là et que Dieu, lui, en ajoute beaucoup au christianisme. Mais Dieu, c'est un Dieu humble et il aime les humbles. Venez pas à Dieu d'une manière où est-ce que vous dites, tiens, je vais m'approcher de toi avec tout ce que j'ai. Non, approchez-vous de Dieu réellement comment vous êtes. Réellement comment vous êtes. Aujourd'hui, on va voir des baptêmes, tout ça, puis ils vont raconter comment est-ce que Dieu les a sauvés. Et non pas comment c'était des personnes extraordinaires que finalement, et que Dieu est donc bien chanceux de les rajouter à son équipe, là. Non. On va se rendre compte qu'ils n'avaient pas grand-chose pour être sauvés, mais que Dieu les a sauvés quand même. Une belle image qu'on a dans Zacharie, c'est au chapitre 3. Le début du chapitre 3. Et ça, c'est une très belle application. Chapitre 3, verset 1. « Il m'a fait voir le grand prêtre, Josué, qu'on a vu tantôt, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, « Que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci, en parlant de Jérusalem, n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il a dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » J'ai dit, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. Une belle image que Dieu nous donne. Où est-ce que on a un homme, le grand prêtre, celui qui est supposé être pur pour s'approcher de Dieu dans le lieu très saint, et il est sale, des vêtements sales, et Satan est à sa droite, et il l'accuse devant Dieu. Regarde comment il est mauvais, regarde comment il est sale, regarde comment il est... Hey, il pue. Il a pas mis de déo ce matin. Puis là, l'Éternel répond directement à Satan et dit que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence. Est-ce que Jérusalem est loin d'être pure, là? En fait, Jérusalem, c'est un tisson que j'ai arraché au feu, que j'ai enlevé de la destruction moi-même. Puis là, il regarde Josué avec ses vêtements sales et l'ange de l'Éternel lui enlève ses habits sales et lui met un habit de fête. Et on a une foule de significations pour ça, mais pour moi, je trouve que celle qu'on peut voir, qui est vraiment intéressante, si vous allez avec moi dans le livre d'Apocalypse, où ce qui reprend ce même thème-là, Comment l'Éternel réduit au silence Satan? Satan, sa force, son pouvoir, c'est d'avoir la liste de toutes vos fautes et de pouvoir vous accuser et de vous réaccuser et de vous réaccuser encore. Au Apocalypse 12, verset 10, « Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Dieu a réduit au silence Satan en lui arrachant des mains la liste de tout ce qu'on a fait de mal. Il a enlevé la liste légale qui disait « Mais tu vois, t'as menti là. T'as trompé ton frère à ce moment-là. T'as volé ici. » Oh, là, t'as été adultère. Il a pris cette liste-là que Satan nous accusait, c'est-à-dire il nous accusait jour et nuit, il n'arrêtait pas. Il parlait à Dieu fréquemment. Des fois plus fréquemment que nous, j'imagine. Mais là, Jésus, par son sang, il paye pour tous les péchés. Et maintenant, Satan n'a plus aucune liste pour nous accuser. Il ne peut plus arriver devant Dieu et dire, « Oui, mais il a fait ça. » Non, ça a déjà été payé. Ça a déjà été payé. Fait que c'est un genre de « ta gueule, Satan » théologique. C'est vrai, là. C'est comme « Satan, tu ne peux plus parler, je te réduis au silence. » Parce que maintenant, Jésus a déjà payé. Martin Luther avait la drôle d'habitude de, quand il se sentait accusé, de répondre au diable et de dire, continue Satan, continue à me dire des affaires, mais juste te dire, c'est plus moi qui porte mes péchés sur mes épaules, c'est Jésus, fait faut que tu ailles t'arranger avec lui. Et il y avait la tendance, Martin Luther répondait à Satan constamment. Et je pense que ça peut l'avoir l'air fou, d'un certain sens, mais je pense que c'est pas si fou que ça. Répondez à Satan qui vous accuse. Désolé, je peux pas m'arranger avec toi, c'est pas moi qui ai le dossier, c'est Jésus. Portez votre dossier à Satan, à Jésus, excusez-moi. Pas très bon. Portez votre dossier à Jésus et ne laissez plus le diable vous abattre par les accusations. Voyez. Le vêtement qu'on a reçu, c'est pas un vêtement lourd, ce qu'il faut porter avec les... Là, Jésus a dit, là, je t'ai sauvé, voilà ton vêtement lourd de responsabilité, là. Non, c'est un vêtement de fête. La victoire, on l'a. Donc, célébrons. On devrait être le peuple le plus joyeux qui n'existe pas sur la terre. Et j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus. Mais on devrait être le peuple le plus joyeux parce que peu importe les circonstances, notre dossier est clean. Tout ce qui nous reste, c'est à être joyeux. Oui, on peut être triste. Oui, on peut dire, Seigneur, je vis des difficultés et Dieu est toujours prêt à le prendre. Mais au travers de ça, on devrait se rappeler qu'on a la victoire, toujours en Jésus-Christ, qui lui nous a remis des vêtements de fête. Et son premier miracle, c'était de fournir le vin pour la fête. Ça, il faut s'en souvenir. Le pouvoir de Dieu de préserver son peuple, malgré le fait que le peuple a été infidèle pendant longtemps, Dieu les a préservés. Dieu les a gardés. Il promet qu'au travers de ce reste, un jour, le Messie viendrait et qu'il régnerait sur toute la terre. Dieu peut préserver son peuple. Vous n'avez pas à avoir peur du monde. Et je pense que c'est ça qui, des fois, on fait qu'on est un petit peu séparé du monde, c'est qu'on en a peur. On a peur du monde. On a peur. Est-ce qu'ils vont me contaminer comme un virus? Puis là, je ne peux plus rien faire. Puis là, je vais devenir impur. Mais Dieu préserve son peuple. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se jeter dans toutes les situations. Ce n'est pas ça mon but. Mais mon but, c'est de dire Dieu va préserver son peuple pour qu'on puisse aller vers eux autres et leur montrer comment eux peuvent devenir le peuple de Dieu. Jésus, quand il est venu, savez-vous c'était quoi sa réputation? C'était un buveur et un glouton. Parce que c'est drôle, il était toujours invité à toutes les fêtes. Fait qu'à chaque fois qu'on le voyait, voyons, tu manges tout le temps. T'es tout le temps en train de manger puis de boire. Mais Jésus allait constamment vers les gens. Il était constamment avec eux autres pour les gagner. Il dit bien, il dit, je suis pas venu pour ceux qui sont en santé, je suis venu pour les malades. Alors Dieu veut vous préserver, non pas juste pour être préservé, qu'on soit ensemble, qu'on soit notre petite gang ensemble, on est bien ensemble, on reste ensemble, mais il nous préserve pour qu'on soit son peuple et qu'on illumine autour. Et dernière des choses, si Dieu nous donne une responsabilité, il équipe également son peuple. Dans Zacharie, on voit que c'est vraiment l'histoire de, OK, vous allez rebâtir le temple, vous allez rebâtir le temple, mais Dieu n'arrête pas de dire, je vais vous donner ce que vous avez besoin. Je vais vous donner ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de quelqu'un, je vais vous donner Zorobabel, un homme qui allait aider pour rebâtir le temple. Il dit, le grand prêtre est plus pur, je vais le purifier. Fait que lorsque Dieu vous envoie quelque part, lorsque Dieu vous met dans un endroit, il vous équipe pour que vous puissiez faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Il ne vous laissera pas. Et même nous-mêmes, Jésus, quand il dit à ses disciples, « Allez pas tout de suite, ne sortez pas de Jérusalem avant que la puissance ne soit venue d'en haut. » Dieu ne nous envoie jamais quelque part avant que l'on soit équipé pour y aller. Et il continue de le faire. Il va vous donner de la grâce. Si vous ne vous sentez pas assez fort, c'est une bonne chose. Parce que justement, ce que Dieu vous a donné, c'est qu'il a dit, tu peux maintenant venir à moi, porter tes fardeaux, sans problème. Si vous ne vous sentez pas apte, il dit, ça tombe bien, parce que justement, ce n'était pas une personne apte. Parce que je voulais que les gens voient que ce n'est pas par le fait que tu es bon que tu vas y arriver, mais c'est par le fait que moi, je suis bon. Alors, si Dieu vous a fait comme vous êtes présentement, c'est qu'il vous a équipé de la manière que vous êtes pour accomplir ce à quoi vous avez été appelé. Fait que c'est la fin pour Zacharie. Je vais juste prier, puis après, on va pouvoir aller célébrer Dieu ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier. Seigneur Jésus, constamment, à chaque fois que je tourne les pages de la Bible, Seigneur, je vois ta gloire. Je peux voir comment est-ce que toi, Seigneur, tu es venu pour nous sauver, comment est-ce que toi, tu nous équipes, comment est-ce que toi, tu accomplis des choses au travers de nous. Alors, c'est toute ton histoire qu'on lit, Seigneur Jésus, au travers de l'Ancien Testament et même dans le livre de Zacharie. Alors, Seigneur, je te demande, continue d'accomplir ces choses. Continue de sauver. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sûr, mais Seigneur, sauve-le. Seigneur, si quelqu'un est appelé à quelque chose, équipe-le. Continue de le faire. Rends-le pur, Seigneur. Arrache de la main de Satan, Seigneur, la liste de ses fautes et qu'il puisse vivre dans la joie et dans la reconnaissance et avec ses habits de fête, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Et qu'on puisse te célébrer avec un cœur entier. Et même si notre cœur est lourd, Seigneur, on sait que toi, tu continues encore, Seigneur, d'agir au travers de nous. C'est en ton nom que je te prie, Seigneur Jésus. Amen.